Dans le domaine du travail, un terme a trouvé sa place depuis maintenant plusieurs années, celui du burn-out, un anglicisme qui exprime donc l'épuisement professionnel accompagné d'anxiété et de stress, un syndrome qui toucherait entre 5 à 10% de la population active. Quels sont les symptômes du burn-out? Comment le prévenir et le prendre en charge? On en parle dans un instant avec mes invités. Vos questions, vos témoignages, ils arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, un dossier aujourd'hui en partenariat avec le magazine Le Cercle Psy. De très vieilles bouteilles de champagne à la une de la science, Axel Villard, aujourd'hui.
Vieilles et intactes, hein, Mathieu, ces bouteilles et leur vin ont passé plus de 170 ans au fond de la mer Baltique. La science vient de les analyser. On en parle dans un instant avec un des chercheurs chanceux qui a même eu le droit de goûter.
Et puis on reviendra également aujourd'hui sur la crise requin sur l'île de la Réunion.
Oui, après notre une de lundi, le préfet de l'île nous a demandé un droit de réponse aux propos tenus par François Sarano de l'association Longitude 181. Nous serons donc en ligne depuis Saint-Paul. Vos questions, vos réactions pour la une, comme tous les jours, sur Twitter, hashtag l'attaque.
Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré, réalisée toute cette semaine par Céline Hilla et qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le burn-out, ce sera donc dans quelques minutes le dossier de l'émission aujourd'hui avec vous, Marie Peset, Philippe Xavierja et Jean-François Marmion. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Marie Peset, est-ce que les Français au travail sont dans un état d'épuisement massif?
Ils sont dans un état d'épuisement massif, physique, cognitif et moral.
Ben ça va pas fort alors.
Oh non.
Oui, ça représente 5 à 10% des personnes qui travaillent à peu près, c'est l'estimation?
Si on imagine qu'il y a des degrés divers d'entrée dans ce syndrome, plus que ça.
Philippe Xavierja, est-ce que le burn-out est une maladie de pays riche?
À mon sens, c'est un luxe de pays riche, oui. À mon sens, c'est un luxe de pays riches. On a même pu dire que c'était une maladie de civilisation. La question qui se posera, c'est est-ce que c'est vraiment une maladie?
Oui, vous parlez en tout cas d'une maladie d'opulence hein, dans les pages du Cercle Psy. Jean-François Marmion, justement, est-ce qu'on n'a pas tendance à avoir du burn-out un peu partout aujourd'hui?
Ben, disons que le terme s'est imposé, il est rentré dans le langage courant. On ne parle plus tellement de surmenage, ça fait un peu désuet.
Ouais.
On parle moins de stress au travail, ça fait un peu commun. Par contre, burn-out, il y a une dimension plus forte. Et peut-être plus inquiétante, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça recouvre quand on l'emploie au quotidien.
Allez, on va se retrouver donc ensemble dans quelques minutes pour évoquer l'épuisement professionnel et pour en définir les contours avec les messages sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, on ouvre le champagne. Et des bouteilles de vin de champagne vieilles de 170 ans, retrouvées au fond de la mer Baltique en 2010 et qui livrent enfin aujourd'hui leurs secrets avec des chercheurs français et allemands qui ont analysé une cargaison exceptionnellement bien conservée de 168 bouteilles et leurs conclusions viennent de paraître dans les PNAS et sont à la fois surprenantes et alléchantes. Philippe Jandet, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'unité de recherche vignes et vins de Champagne à l'université de Reims et vous avez donc manipulé avec grande précaution quelques millilitres seulement de ces vins. Avant de parler de leur composition, racontez-nous quand même l'histoire de ces bouteilles qui ont été retrouvées à 50 mètres au fond de la mer Baltique, hein, c'est ça?
Tout à fait. Ces bouteilles ont été retrouvées en 2010 environ. Au fond de la mer Baltique, à une profondeur de 50 mètres, dans un archipel, les îles Åland, au nord de la mer Baltique. Et c'est un pêcheur, apparemment, qui avait donné des indications sur la présence d'une épave, d'un bateau. Et ce qui est d'assez énigmatique, et c'est un secret qui restera à jamais scellé, c'est le nom du bateau, on ne connaît pas. Et d'où il partait, on n'en sait rien, et jusqu'où il allait, on ne sait pas réellement, bien que on ait essayé de faire des recoupements basés sur la constitution chimique de ces vins pour savoir un peu à quel type de consommateur il était, ces vins, ces champagnes étaient destinés.
170 ans donc passés au fond de l'eau, et vous avez donc dirigé l'équipe qui a pu analyser un échantillon seulement, tout petit, minuscule. Hein. Vous avez eu quoi, quelques gouttes à portée de main, c'est ça?
Alors pour les analyses chimiques dont la majeure partie ont été réalisées à l'Université technique de Munich avec le professeur Philippe Schmidt-Coplin, en collaboration aussi avec un professeur de l'Université de Bourgogne, le professeur Régis Goujon, eh bien on a eu très exactement 3 échantillons différents et chacun était de 2 millilitres. C'est moi qui ai fait l'envoi par la poste à mes collègues de l'université de Munich.
Oui.
Et c'était donc dans des tubes en téflon, ça n'avait rien de très romantique.
Oui.
Mais au moins le téflon est un produit inerte, donc il ne pouvait pas altérer la composition chimique du vin, et ça a été 2 millilitres. Et pour l'analyse sensorielle, là, c'était encore moins romantique. C'est mon collègue de Munich qui m'a versé sur le dos de la main, parce qu'il n'en avait pas plus, un échantillon, alors on n'est pas d'accord sur le chiffre, mais enfin, c'est 20 à 50 microlitres, hein, donc 20 à 50 millionièmes de litres de ce vin,
oui.
Avec une seringue en plus, une seringue de laboratoire, parce que c'est en fait une goutte, hein, c'est l'équivalent d'une goutte d'eau de robinet que j'ai eu le privilège de tester en 2013 quand j'ai été à Munich.
Donc c'est la première fois qu'on peut dire d'un vin qu'on peut le boire sans modération, pour le coup, parce que là, on risque pas de se là, faire du mal. Hein.
Pour lutter contre le burn-out, donc, apparemment c'est le thème de votre émission aujourd'hui. Il est clair qu'il en faudra peut-être un petit peu plus pour se donner un peu de bonheur à l'âme. Parce que 50 microlitres, effectivement, c'est juste pour avoir une impression qui était d'ailleurs remarquable, puisque j'ai perçu des arômes de tabac, de cuir, et que, chose exceptionnelle, le goût m'est resté plusieurs heures dans la bouche, ce qui montre que effectivement le champagne était exceptionnellement bien conservé et avait gardé et a certainement au cours de son vieillissement au fond de la mer Baltique acquis des arômes de maturité des vins extrêmement délicats et raffinés. Et c'est vrai que c'était assez prodigieux.
Philippe Jandet, vous n'aviez vraiment pas beaucoup de champagne, mais vous avez trouvé beaucoup de choses hein, chimiquement, la composition.
Voilà. Alors, ce qui nous a surpris, déjà, c'est la remarquable stabilité du vin après 170 années passées quand même au fond de la mer. Les caractéristiques chimiques qu'on a pu caractériser, les caractéristiques de ce vin chimiquement sont pratiquement les mêmes que ceux des champagnes actuels. Donc, on pourrait dire c'est banal comme résultat. Non, c'est exceptionnel. Parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de complètement détérioré, de ne plus retrouver finalement la signature chimique d'un vin. Et finalement, on a retrouvé de l'alcool, même si c'est en concentration moins grande. Mais ça, c'est pas lié au vieillissement, c'est simplement lié au fait que, à l'époque, on parlait pas de réchauffement climatique, mais on était plutôt dans des climats froids, donc la vigne avait un certain mal à mûrir. Et probablement aussi, une autre conséquence de ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils additionnaient des quantités de sucre extraordinaires. On était à 150 grammes de sucre dans ces vins. Donc vous voyez, en ajoutant un sirop comme ça, on diluait forcément le volume d'alcool. Et même le marché russe de l'époque, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le goût russe, c'est ce qu'on appelait à l'époque le champagne à la russe, eh bien était à 300 grammes par litre de sucre.
Oh.
Un champagne brut actuel, c'est quelques grammes.
C'est plus sucré que des sodas actuels, c'est ça?
Ah oui, là on n'a pas de référencement actuellement. Ouais. Je pense que même le... sans faire de publicité, mais le soda le plus connu pourrait paraître pour une boisson diététique si on compare avec le goût. C'était vraiment le goût de l'époque. Hein. On cherchait des vins effervescents, mais enfin, on sucrait tout. Le correspondant de Madame Clicquot à Saint-Pétersbourg avait noté que sur les tables de où on mangeait, il y avait à côté du verre de vin, du verre, il y avait un sucrier, et on sucrait tout, on sucrait le vin rouge et on sucrait le champagne, ce qui a donné l'idée à la maison Clicquot de faire un champagne très particulier, champagne à la russe.
Philippe,
mais à la même époque, déjà, les Anglais et les Américains, eux, boudaient les boissons sucrées, enfin, quoique maintenant, ils ont un petit peu changé, mais en tout cas, ils ont imposé au monde le goût du champagne brut, et déjà, eux ne toléraient des champagnes qui étaient sucrés qu'avec 20 à 50 grammes de sucre.
Allez, Philippe Jandet, parce qu'on est très pressé, on est déjà quasiment à la fin de notre rendez-vous, hélas, vous avez trouvé également beaucoup de bulles, c'est ça, dans ce champagne?
Alors non, justement, on n'en a plus trouvé du tout.
Ah, plus de bulles, oui, pardon, plus de bulles.
Le CO2 est passé à travers le bouchon,
oui, absolument.
Et il est perdu dans la mer Baltique, là, sans espoir de le récupérer un jour.
Que vont devenir ces bouteilles alors?
Certaines vont dans les musées parce que c'est effectivement d'un point de vue de l'archéologie du vin, c'est des pièces étonnantes, c'est pratiquement les champagnes les plus vieux du monde. Et puis certaines ont été vendues. Alors certaines ont été vendues aux enchères à des prix qui défient toute concurrence, puisque les prix que j'ai pu retenir, c'était 20 000 à 30 000 euros la bouteille.
Oh là là, effectivement. Et vous avez quand même eu la chance donc de pouvoir goûter ce vin, rester 170 ans.
Peut-être 10 à 15 euros de du champagne.
Dans les calculs, vous avez fait tous les calculs.
Ça fait cher quand même, très très cher la goutte d'eau.
Ça fait cher la goutte, effectivement. Voilà. Merci beaucoup Philippe Jandet pour vos explications. Donc autour de cette publication qui est arrivée donc lundi dans les PNAS. Allez, sans transition, nous repartons sur l'île de la Réunion. C'était il y a deux jours à la Une de la Science, dans la Tête au Carré, avec l'océanographe François Sarano, qui s'exprimait au sujet des attaques de requins.
Le comité régional des pêches maritimes de la Réunion, depuis un an et demi maintenant, avec tous ceux qui sont tenants de l'élimination des requins, ont décidé de pêcher les requins en les attirant près de la côte. Il y a eu déjà 70 requins tigres qui ont été pêchés, une douzaine de requins bulldogs, et malgré tout ça, les accidents continuent. Pourquoi ? Parce qu'on attire les requins près des endroits où on surfe et où on nage.
Alors, ces propos ont choqué le préfet de l'île de la Réunion et certaines associations de pêcheurs. Nicolas Bianic, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé. Oui, vous êtes chargé de mission sur la prévention du risque requin, justement, à la préfecture de l'île de la Réunion. Vous avez demandé un droit de réponse à Monsieur Sarano. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre exactement ?
Bah, tout d'abord, merci de nous donner ce droit de réponse. Ce qu'on voudrait indiquer, c'est que la réduction du risque requin, pour nous, passe par une série de mesures sur lesquelles on travaille depuis 4 ans. Donc, la pose de filets, l'information, la sensibilisation, la connaissance. Dans le contexte de la Réunion, notre démarche passe aussi par une pêche très sélective des requins qui peuvent représenter un danger, donc le bulldog et le tigre dans notre situation particulière. Moi, je voudrais dire à Monsieur Sarano, en fait, qu'il ne faut pas confondre deux enjeux ou entretenir la confusion entre deux sujets très différents. Il y a tout d'abord l'enjeu international de la protection des requins, sur lequel, je le rappelle, la France joue un rôle majeur en s'opposant aux ponctions inutiles dans les stocks de requins ou aux pratiques telles que, par exemple, le découpage des ailerons de requins. Mais cela n'a absolument rien à voir avec notre enjeu ici à La Réunion, où en fait on recourt à la pêche pour préserver la vie humaine et limiter les interactions entre l'homme et le requin à la côte. Dans le premier cas, il y a 100 millions de requins qui sont pêchés chaque année dans le monde. Mmh. Dans le cas de La Réunion, c'est de l'ordre de quelques dizaines. Donc en tout cas, à notre niveau, on considère que l'enjeu n'est absolument pas le même.
Là, ce qui fait vraiment débat, c'est ces drumlines, c'est ces appâts avec des hameçons placés autour de l'île. À quoi ressemblent ces drumlines ?
Ah bah, la drumline, oui, quelques explications techniques. C'est tout d'abord un ancrage entre 15 et 20 mètres de profondeur, un ballon en surface auquel est greffé un hameçon. Alors un hameçon de grande taille, effectivement, pour cibler les requins et uniquement les requins. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, là encore, il y a 6 drumlines, donc 6 hameçons sur à peu près 200 km de côte à La Réunion. Hameçons qui sont positionnés sur les zones de passage des requins. Alors pour quand même nous assurer du mode de fonctionnement de cet outil, qui déjà a été mis en œuvre avec succès en Australie et en Afrique du Sud, on a conduit une expérimentation scientifique de 18 mois dans un secteur qui était le secteur de la baie de Saint-Paul. Donc on agit en pleine connaissance de cause. Ça entraîne bien évidemment la capture de quelques requins, puisque c'est notre objectif. Moi, je comprends tout à fait la tristesse ou l'amertume de Monsieur Sarano.
Mais il dit que le problème, c'est qu'on capture tout type de requins, pas seulement les bulldogs qui posent problème à La Réunion.
Alors non, puisque en fait, on a un dispositif qui a été innovant, qui a été installé sur ces drumlines, qui permet effectivement de limiter les captures accessoires. Donc on ne cible que les requins bulldogs et les requins tigres. Toutes les captures accessoires sont relâchées vivantes dans le milieu.
Donc pour vous, Nicolas Bianic, et ce sera la conclusion de notre entretien, il n'y a pas de problème précisément avec ces drumlines ou la pêche en général qui aurait un impact donc sur les requins.
Non, nous, la question centrale qu'a évoquée M. Sarano, c'était effectivement la question d'une attractivité potentielle. Je voudrais simplement dire qu'on a marqué 80 requins à La Réunion dans le cadre d'un programme scientifique. Mmh. On a disposé des stations d'écoute autour du site expérimental que j'ai évoqué pour mesurer la fréquentation des requins, savoir si on avait plus avant qu'après. Mmh. Aujourd'hui, on a trois éléments qui ressortent de cette expérimentation sous contrôle scientifique. Premièrement, il n'y a pas eu d'accroissement de la fréquentation des requins autour de la zone d'étude. Deuxièmement, il n'y a eu aucune arrivée de requins supplémentaires du large vers la côte. Et tertiaux, il est démontré dans le cadre de cette étude que des requins ont été bel et bien capturés de façon mesurée et ciblée sur ces drumlines. Donc l'efficacité pour nous est au rendez-vous.
Et c'était la réponse que vous souhaitiez apporter au propos de François Sarano, ici même lundi dans la Une de la Science. Merci beaucoup Nicolas Bianic. Merci Axel.
Merci.
Le podcast, hein, toujours pour la
Une de la Science. La Une de lundi avec Monsieur Sarano, celle d'aujourd'hui, le podcast tous les jours avec le dossier sur le site franceinter.fr.
Abonnez-vous. Le burn-out dans un instant. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Et les Clash pour démarrer ensemble cette tête au carré.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Nous placer comme les mouches.
On arrête.
Qu'est-ce qui se passe, Vincent?
T'es vraiment bien foutu de ma gueule.
Vincent, t'es pas bien ou quoi?
Non, c'est à moi d'être ici, tu le sais, toi.
Bon, Vincent, ça suffit maintenant, j'aimerais que tu sortes.
Qu'est-ce qui se passe, Vincent?
S'il te plaît, Vincent.
C'est à moi d'être ici. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, toi, tu vois?
On va sortir ensemble, on en parle après, hein?
Non, je sortirai pas. Je sortirai pas.
Merde, Vincent, ça suffit maintenant.
Non, je sortirai pas. Je vois pas pourquoi. Elle est là! Et pas moi!
Monsieur Dabler.
Quand il y a quelque chose qui va pas là?
Tu sors maintenant!
Non, je partirai pas. Je partirai pas! Je reste là!
Vincent, arrête!
Appelle les pompiers, vite.
Voilà, ça se passe pendant une réunion de travail, extrait du téléfilm 15 jours ailleurs, réalisé par Didier Bivel avec Didier Bourdon pour parler du burn-out cet après-midi. Dossier de la tête au carré pour mieux comprendre ce syndrome de l'épuisement professionnel. Pour en parler, je reçois Marie Pesé, Philippe Zawidja et Jean-François Marmion. Marie Pesé, il faut juste décrire quand même cet extrait que vous diffusez d'ailleurs à vos élèves. Hein.
Bien sûr, parce que c'est un exemple extraordinaire d'une des voies d'entrée dans le burn-out. Passant par ce que les médecins conseils de la sécurité sociale appellent état de stress aigu et demandent d'ailleurs à déclarer en accident du travail pour que du coup l'entreprise se saisisse de ce type d'incident violent et fasse un arbre des causes grâce aux membres du CHSCT remis en cause actuellement.
Alors vous êtes psychanalyste Marie Pesé, responsable du réseau de consultation souffrance et travail, sans consultation maintenant justement sur le territoire, ainsi que du certificat de spécialisation psychopathologie du travail au CNAM, et vous avez initié donc la toute première consultation en 97 en milieu hospitalier. Philippe Zawidja, vous êtes chercheur associé sur les risques et les crises des mines Paritech et vous publiez le Burnout dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Et puis Jean-François Marmion, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Le Cercle Psy, qui consacre justement son dernier numéro, un grand dossier en tous les cas, à la société en burn-out. Toutes les questions, les témoignages déjà nombreux, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On va commencer avec ce premier message de Christophe qui nous dit ceci, le cerveau humain est avant tout monotâche, nous dit-il. Or, dans la vie professionnelle, il est bon de faire plusieurs choses en même temps et vite. La raison du burn-out n'est-elle pas là? Philippe Zawidja voulait lui répondre. Est-ce qu'on est vraiment monotâche?
Je ne crois pas.
Non,
je ne crois pas. Je crois que comme tous les grands animaux, si je puis dire, les animaux supérieurs, on est programmé pour faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, se reproduire et surveiller les éventuels prédateurs. Se nourrir et surveiller les éventuels prédateurs. Mmh. Alors, on n'en est plus à ce stade et je ne suis pas physiologiste, mais je ne crois pas que nous soyons programmés pour ne faire qu'une seule tâche.
Bon, donc c'est pas vraiment le problème à la source du burn-out, Marie Pesé.
Par contre, je pense que ce que cet auditeur probablement essaye de dire, c'est que l'organisation du travail oublie le corps et ses seuils physiologiques, puisque Philippe Zawidja les évoquait, et c'est ces seuils physiologiques qui sont réels et qui ont leurs limites, sont les grands absents de l'organisation du travail actuel. Oui.
Guillaume nous dit ceci, la globalisation a renforcé la domination des corporations qui déshumanisent l'employé, met toujours plus de pression sur ce dernier et contribue largement au burn-out par l'appauvrissement du milieu dans lequel l'employé travaille. Jean-François Marmion.
Oui, c'est pas faux, d'autant que je pense qu'il y a, chez certaines personnes, pas toutes, mais chez certaines, il y a une espèce d'identification au burn-out, c'est-à-dire que faire un burn-out, ce n'est pas neutre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est uniquement subi. On se définit aussi parce qu'on fait un burn-out dans un environnement qu'on juge inhumain. Mmh. Si mon environnement est inhumain, professionnel et peut-être plus largement l'environnement libéral, etc., s'il est jugé inhumain et que moi je me porte mal dedans, ça veut dire que moi, je suis humain. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Moi, je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, un psychologue systémicien vous dirait que dans un système dysfonctionnel, il y a quelqu'un qui porte le symptôme un peu. Là, il y a de ça. Si j'étais bien dans un système pourri, je serais quelqu'un de pas très recommandable.
Philippe Zawidja.
Moi, j'ai envie de faire un peu de provocation. Il est un peu simple et tellement évident d'accuser le système économique actuel, qui est le seul que nous connaissions désormais. Pour ceux qui ont connu les modes de production à la soviétique il y a une trentaine d'années, on avait probablement des symptômes de fatigue monstrueux, alors qui ne sont pas des cas de burn-out, mais qui sont probablement des cas d'ennui au travail, mais d'ennui profond, qui étaient à mon avis, bien je ne les ai pas connus, tout aussi déshumanisants.
Il y a un nom d'ailleurs pour ça.
Oui, mais je suis incapable de le prononcer.
C'est bore-out.
Bore-out. Alors ça c'est l'ennui dans nos civilisations actuelles. Ouais. Là, je parle de mots qui ont été utilisés dans les années 70 en russe, que je ne parle pas, d'ennui, de désintérêt total, d'écrasement de l'ouvrier dans ses chaînes de production, dans ses entreprises staliniennes. Je ne pense pas que la santé mentale des Russes de l'époque ait été meilleure que la nôtre aujourd'hui dans nos systèmes de production capitalistes. Mmh. Mais c'est le seul système de production que nous connaissions aujourd'hui.
Oui, Marie Pesé.
Je crois que le burn-out, comme toutes les autres pathologies liées au travail, parce qu'il y en a d'autres, il y a de grandes familles, les pathologies de surcharge, dont le burn-out fait partie, et les pathologies de la solitude, sont toujours une rencontre entre une structure psychique individuelle, pour ne pas parler de personnalité, et une organisation du travail. Il est évident que actuellement les organisations du travail font la part belle plutôt à l'intensification du travail qu'à la qualité du travail lui-même. Et ça, c'est un changement de paradigme important. Hein.
Larry nous dit, les Anglais disent parfois « it's only a job », c'est juste un travail. Les Anglo-Saxons sont-ils plus ou moins touchés que les Français par le burn-out ?
Alors ça, c'est un point important parce que des études ont été faites en France et c'est vrai que le salarié français a une relation au travail très spécifique, un investissement particulier qu'on ne retrouve pas dans les milieux anglo-saxons. Mais au-delà de ça, ce qu'on retrouve dans les milieux anglo-saxons, c'est que même si les modèles organisationnels sont les mêmes en termes d'intensification du travail, ce qui est modifié, c'est la reconnaissance. Quand vous bossez beaucoup aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays, vous êtes rétribué en termes financiers, vous avez des bonus, vous progressez, on reconnaît votre travail. Il y a quand même en France une spécificité managériale qui repose sur des stéréotypes. Le salarié français n'a rien à dire sur la manière dont on lui demande de travailler. Le travail prescrit est extrêmement procéduralisé et la reconnaissance au travail financière, on la cherche dans ce pays.
Alors justement, Philippe Zawedja, est-ce que le problème du burn-out est lié à la base à un problème d'investissement de l'individu ou pas ?
À mon sens, non. J'ai envie de penser et j'ai envie de dire qu'il y a un grand mythe qui se balade dans le grand public, qui est celui du burn-out maladie, avec des guillemets, du surengagé. Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est une vision a posteriori. Je développe souffrance. Oui. Alors, j'ai tendance à penser quand même, pour me protéger, que c'est parce que j'ai été surengagé, que j'en ai trop fait, que je n'ai pas reçu en retour la reconnaissance dont Marie à l'instant, reconnaissance matérielle, symbolique, pécuniaire, etc. Je crois que c'est une reconstruction du passé que de se dire « je suis burn-outé parce que je suis surengagé ».
Oui. Jean-François Marmion.
Oui, puis il est important aussi de considérer que son travail a un sens. En France, c'est vrai qu'il y a une espèce presque d'exception culturelle. On aime le travail bien fait plus que dans d'autres pays. Et il se trouve que si on nous fait faire des choses, on parlait du multitâche tout à l'heure, des choses multiples, mais qu'on juge inutiles, voire contre-productives, injustifiées, sans reconnaissance, il suffit qu'on n'ait pas beaucoup de travail, mais qu'on nous en donne de ce tonneau-là, pour qu'on se sente tout de suite débordé, dégoûté, inutile et en pleine absurdité.
Ce qu'on appelait la conscience professionnelle il y a 10 ou 15 ans et semble devenu le surinvestissement actuel. C'est là où le changement de paradigme est quand même important à souligner. On voit bien dans les certifications, dans les critères d'excellence, à quel point on peut demander à un fraiseur, par exemple, de fraiser à 8 microns plutôt que 6. Parce que ça suffit, quoi. Là, on voit bien aussi comment dans le lean management, on entend partout parler des retours de véhicules par centaines de milliers chaque année. On voit bien comment la qualité totale n'est pas la qualité de la belle ouvrage que le salarié français aimerait pouvoir retrouver dans son travail. Parce que au-delà de la reconnaissance par le salaire ou par d'autres voies, ce qui nous permet de nous reconnaître, c'est nous reconnaître dans la beauté du travail qu'on a fait.
Philippe Zawedja.
J'ajouterais ce que vient de dire Marie Peset, que à cette belle ouvrage, à cette conscience professionnelle, s'ajoutent des éléments qui ont été injectés dans les professions, dans les métiers, dans le quotidien des gens, qui sont des éléments totalement imposés. Le remplissage d'indicateurs, le renseignement d'indicateurs. On voit des gens passer la moitié, voire toute la journée de travail, à remplir des tableaux Excel, sans avoir aucune activité de production. Donc, c'est-à-dire sans faire leur métier, remplir des tableaux, des logiciels, des ERP, Excel. Enfin, Excel, on a tous croisé des cadres complètement cramés par Excel, mais ou faire des présentations PowerPoint. Voilà. On passe davantage de temps maintenant au travail, à montrer qu'on sait travailler et pas à travailler.
Noël nous dit ceci, j'étais victime d'un burn-out, j'avais de plus en plus de travail, je faisais des journées de 10 à 12 heures non-stop, je me sentais de plus en plus fatigué sans pouvoir récupérer, les vacances et les week-ends ne suffisaient plus, la seule chose c'était dormir, j'ai eu 3 ans de traitement, depuis j'ai changé de travail et j'ai pu reprendre à plein temps. Si on ne donnait pas tant de travail aux collaborateurs, il n'y aurait plus de burn-out.
Écoutez, c'est formidable ce que dit cette auditrice parce qu'elle met le doigt sur probablement le symptôme majeur. Qu'il faut mettre en avant, au-delà des définitions de spécialistes, on sait que c'est une pathologie protéiforme qui se modifie au fur et à mesure que l'organisation du travail se modifie. Mais s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, c'est que si vous en êtes rendu à une fatigue que le sommeil et le repos ne résorbent pas, vous avez entamé votre glissade vers le burn-out. C'est le premier indicateur.
Allez, il y en aura d'autres dont on va parler avec vous dans quelques minutes. Et beaucoup de messages, énormément de témoignages sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr, pour nous retrouver cet après-midi.
Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en semblant qu'on est pressé. On slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée, celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans quel on est placé, hein? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait s'immuniser, pour un nouveau pouvoir se fondre, dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groguis, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété, qu'il nous faudrait apprivoiser, hein. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé.
Chaîne de vie, Zoufris Maracas sur France Inter.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h,
je m'en occupe.
Sur France Inter.
Et le burn-out, le thème de notre émission en partenariat avec le Cercle Psy. Donc c'est dans les kiosques en ce moment avec un grand dossier sur ce sujet. Philippe Zaouedja et ce livre, Le Burn-out, c'est paru aux Presses Universitaires de France. Et puis Marie Pesé, parmi vos ouvrages, Je suis debout, bien que blessé, aux éditions Josette Lyon, parmi les tout derniers que vous avez publiés autour de cette question. Beaucoup de messages, donc je vous le disais, Pierre nous dit ceci, toujours plus de productivité, de rentabilité exigée, le moindre espace de temps libre semble devoir être comblé par du travail, des sorties, des occupations quelconque, tout ça favorisé par les nouvelles technologies. Les causes du burn-out semblent tout autant sociétales et culturelles que purement professionnelles. On arrive à une impression générale de surmenage, de n'avoir plus le temps de rien. Est-ce que ça explique en partie justement ce phénomène? Alors, qui veut répondre? Philippe Zaouedja.
Indubitablement. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa qui développe en ce moment...
La logique de l'accélération sociale.
Absolument, hein, la logique
citée de l'accélération. Citée par cet auditeur, justement, dans le message.
Sociale, technique, informatique, informationnelle, etc. On est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans. Ceci dit, j'ai retrouvé un article paru dans une revue de l'infirmière scandinave il y a une quinzaine d'années où on citait déjà ce phénomène. Et là, c'était un soignant qui s'exprimait à titre de témoignage en disant « Mais on est obligé, contraint de s'épanouir dans toutes les sphères de la vie. Il est trop facile de dire que on doit avoir intensifié son travail. On doit aussi le faire dans sa vie professionnelle. Quand on arrive chez soi le soir, hors de question de s'affaler sur le sofa. Il faut courir au sport, choper les enfants, les amener faire ci, ça, ça. Moi-même, je dois aller faire du sport, faire de la danse, etc., me livrer à des activités perso. Jamais je ne m'arrête. Mmh. Ça, c'était dans les années 90. Donc, l'accélération, elle était déjà là. Mmh. Elle n'est pas du tout contemporaine.
Marie Pesé.
Je crois qu'il faut revenir au livre de Pierre-Yves Gomez, Le Travail Invisible, qui explique bien comment, quand même, nous sommes passés d'un capitalisme industriel où le travail était au centre de l'action à un capitalisme financier où là, celui qui réussit n'est pas le plus fort, le plus intelligent, c'est le plus rapide. Il faut vraiment saisir la niche économique qui se libère avant les autres. Et ça, c'est une modification absolument pharaonique de la manière dont nous vivons et qui explique cette capture de l'individu au travail et dans sa vie privée. Tout ça, au travail, en tout cas, il faut le savoir, est quand même fait pour ne pas penser. Hein. Le salarié qui travaille, il a la tête dans le guidon, il ne pense pas, il n'a plus le temps de passer. Et pour avoir fait un séjour hospitalier il n'y a pas très longtemps, j'ai été stupéfaite de voir qu'une infirmière en neurochirurgie venue vous faire un pansement qui est quand même compliqué, allume la petite loupiote habituelle pour dire qu'elle est dans votre chambre, mais au bout de 5 minutes, une sonnerie stridente lui rappelle qu'elle passe trop de temps à ce pansement-là.
Ouais.
Et je ne sais même pas comment ces femmes font pour arriver à préserver leur concentration et à passer outre cette injonction de l'organisation du travail.
Vous m'expliquez en antenne tout à l'heure qu'on pensait à leur mettre des puces dans les chaussures aussi.
Bien sûr, pour obliger les soignants à se laver les mains avec les solutions hydroalcooliques, comme le taux d'infection nosocomiale augmente et qu'on ne réfléchit pas une seconde à redonner du temps aux soignants pour se laver les mains. Eh bien, on va leur mettre des puces électroniques dans les chaussures et ça va sonner à l'entrée de la chambre du patient et au lit. Moi, j'attends les décharges électriques. Hein. Je pense qu'un de ces quatre, ça va venir.
Pour l'infirmière.
Pour l'infirmière. Cette orgie de reporting qu'on évoquait il y a quelques minutes, c'est ça. Hein. Cette procéduralisation à outrance du travail, ça donne la disciplinarisation du corps du salarié, et ça, c'est épuisant.
Jean-François Marmion, dans l'édito que vous signez pour le Cercle Psy, vous racontez que tout le monde était persuadé que vous étiez en burn-out, alors qu'apparemment, c'était pas le cas.
Non.
Mais vous faisiez quand même beaucoup de choses. Hein.
Oui, j'étais dans une période d'épuisement, mais pas spécialement professionnelle. Donc moi, je considère que j'ai pas fait de burn-out.
Oui.
Et je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sur le point de faire un burn-out ou qui en ont fait un. Je suis assez sceptique. Ne fais pas de burn-out qui veut non plus, quoi. À l'origine, il y a une quarantaine d'années, quand le terme est apparu, il désignait plutôt les missions à profession, les enseignants, les soignants, les éducateurs. Et puis, on a étendu le terme à des dizaines de professions, même non seulement aux salariés, mais aux patrons, et puis maintenant aux chômeurs, aux étudiants, aux couples, aux parents. Donc, le concept gagne en popularité, ce qu'il perd en précision.
Alors, c'est ce que vous dites, justement, Philippe Zawidja. Il y a une cacophonie autour du terme burn-out, qui est vraiment maintenant devenu extrêmement populaire, mais peut-être suremployé aussi.
Alors la cacophonie, elle procède de plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que les spécialistes, donc les experts, entre eux ne sont déjà pas d'accord. 50 définitions expertes du burn-out dans ce que j'ai pu dénombrer. Alors, il y en a une qui prédomine toutes les autres. Ça, c'est pour les savoirs experts. Et puis, derrière, il y a l'utilisation profane, j'allais dire celle que monsieur et madame tout le monde font dans leur conversation. Qui relève de ce que disait Jean-François Marmion tout à l'heure. Quelque part, le mot doit servir de totem, il doit servir à cristalliser un certain nombre de besoins. Il doit répondre à un certain nombre de fonctions que socialement ou sociétalement on se pose, et notamment le fait que, plutôt que de se dire déprimé ou dépressif, qui induirait une certaine culpabilité, une faille de ma personne par rapport au système, une faillite à m'adapter à ce qu'on demande de moi, donc une énorme culpabilité. Plutôt que de me dire déprimé ou dépressif, je vais me dire en burn-out, ce qui permet de renverser la responsabilité et en l'espèce de l'attribuer exclusivement au travail. Le résultat est le même. Je suis épuisé, cramé, anéanti. La faute n'est plus au même endroit. Elle n'est plus sur moi. Elle est sur l'organisation de travail.
Alors, Marie Peset, justement, pour distinguer le burn-out de la déprime, parce que c'est très important de le faire.
Oui, il y a un critère évident.
Les personnes qui changent de travail, le problème s'envole comme par magie ou pas?
Alors, écoutez, moi, tout ce que je peux vous donner, c'est les résultats des prises en charge dans le réseau de consultation. Ça, c'est le travail de terrain. Vous savez, en médecine, on décrit la forme typique avec les critères. Voilà. Et puis après, il y a les formes cliniques, celles qu'on rencontre sur le terrain, qui sont très protéiformes. Et puis les formes évolutives et puis les diagnostics différentiels. Sur le terrain, 80% des cas de burn-out que nous prenons en charge, le plus précocement possible, ne tardez pas à consulter. Ça évite les 3 années d'arrêt maladie que vous venez d'évoquer. Pour cette auditrice, quand on les a tout de suite, c'est 2 à 3 mois d'arrêt maladie qui sont une mise entre parenthèses pas morte mais vivante, permettant un contact avec le médecin du travail pour savoir ce qui est possible dans l'entreprise, le traitement très spécifique de cette pathologie avec le salarié en question, le contact avec le médecin conseil, le médecin généraliste, et ça aboutit aboutit, quand c'est possible, au retour dans l'entreprise ou bien un changement de métier. Dans 80% des cas, les gens retrouvent du travail à un poste supérieur à celui qu'ils exerçaient auparavant. Sauf qu'ils y retournent en travaillant à armes égales, c'est-à-dire en ayant déconstruit les effets négatifs des organisations du travail, en mettant en route des ripostes plus précoces sur le nouveau poste, en faisant appel aux acteurs prévus dans l'entreprise, en sachant dire non parce qu'ils ont compris justement que c'était pas à eux de faire le maximum, mais qu'il fallait du pragmatisme au travail et que les missions impossibles, elles portaient bien leur nom. Voilà, nous renvoyons sur le terrain des gens beaucoup plus outillés et qui ont des postes supérieurs à ce qu'ils occupaient avant et qui vont bien. Ouais.
Ah bah ça, c'est la situation idéale lorsqu'il y a une bonne prise en charge.
C'est 80% de nos patients sur la centaine de consultations. Si on les prend en charge suffisamment précocement, si on ne les psychiatrise pas, si on fait un travail de très forte coordination de leurs dossiers en direction de tous les acteurs de soins, sécurité sociale, médecine du travail, entreprise, c'est un travail titanesque qui est fait malheureusement assez peu par les cliniciens qui ne sont pas préparés à ce type d'activité chronophage. C'est chronophage de s'occuper d'un burn-out et nous aussi, on est fatigués dans nos consultations. Et en tout cas, on ne les psychiatrise pas parce que aller sur l'histoire infantile, le DIP, l'impossibilité de supporter la discipline parce qu'on a un petit problème avec son papa, tout ça est d'une totale inefficacité dans les premiers temps.
Et c'est une psychanalyste qui le dit.
Oui, donc c'est vous dire si je parle de loin.
Jean-François Marmion.
Oui, on évoquait tout à l'heure l'absurdité ressentie au travail. Souvent, les gens victimes de burn-out ont l'impression d'être surqualifiés pour ce qu'on leur fait faire. On leur fait faire des peccadilles ou des choses complètement contre-productives. C'est un peu le syndrome de Gaston Lagaffe, quoi. Vous voyez, c'est pas un feignant, c'est pas un crétin. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses, beaucoup de créativité, d'inventivité, mais on lui fait faire des choses qui ne l'épanouissent pas. Il est pas là pour ça, quoi. Il a l'impression non seulement de ne pas être pris pour un humain, mais d'être pris pour un humain, éventuellement un humain stupide.
Philippe Zawedja.
Je crois que le cas de figure que Jean-François vient d'évoquer est celui du burn-out, l'ennui au travail, où la totalité du marché du travail doit être interrogée à chaque stade et à sa mesure, y compris jusqu'au système de formation, donc notre éducation nationale, notre enseignement supérieur, parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes arrivent sur le marché du travail de plus en plus formés, les jobs qu'on leur offre ne sont pas calibrés pour des bacs plus 5. Moi, j'ai en tête deux cas de jeunes filles qui étaient docteurs de langues orientales, qui ont raté tous les concours de cadre de la fonction publique, qui ont donc eu les concours de secrétaire de la fonction publique, en étant docteur. Et qui forcément, une fois dans leur travail quotidien, étaient complètement surcalibrés et qui mouraient d'ennui et qui ont fini en étant en situation de bore-out par faire un burn-out, plus exactement un pseudo-burn-out, parce que pour s'occuper à leur juste mesure, elles s'inventaient des tâches. Il fallait qu'elles s'occupent. Alors elles s'inventaient des tâches et elles les faisaient et elles s'en épuisaient.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce dossier.
I guess.
Courtney Barnett avec Pedestrian at Best sur France Inter. Dernière partie de notre dossier sur le burn-out, l'épuisement professionnel, donc dans la tête au carré, avec Marie Peset, Philippe Zaouedja et Jean-François Marmion, toujours en partenariat avec le Cercle Psy. Fanny nous dit ceci, parler de burn-out, est-ce que c'est pas souvent une façon de faire accepter socialement, mais aussi pour soi, ce qui est au final une dépression? Est-ce important de différencier les deux? Y a-t-il une différence? On le disait un petit peu tout à l'heure, Marie Peset.
Oui, une différence majeure et extrêmement simple. Un burn-out pris précocement se résorbe. La personne retrouve très vite la capacité dans la sphère associative, sportive et personnelle d'avoir des activités. Si on la remet trop tôt au travail, elle s'effondre à nouveau. La dépression, c'est la perte de l'élan vital dans tous les secteurs de la vie professionnelle et individuelle. Donc pour nous, cliniciens, le diagnostic différentiel est extrêmement clair.
Encore faut-il que le diagnostic soit porté par quelqu'un de qualifié.
Je suis bien d'accord.
Parce que le nombre de margoulins qui sont en train de se faufiler là-dedans, c'est assez impressionnant.
Margoulins, oui.
Oui.
Attendez, c'est vrai que le burn-out est un marché juteux. Moment, on voit se développer. Ouais.
C'est comme tous les concepts psy qui ont du retentissement auprès du public, hein, que ce soit les pervers narcissiques, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment avoir à manger.
C'est vrai. Philippe Zaouedja.
Alors, ceci dit, pour rebondir sur ce que disait Marie à l'instant, une étude de nos confrères de Besançon est sortie il y a quelques mois en montrant que chez 80% des personnes, si j'ai bonne mémoire, en tout cas une écrasante majorité, 80 voire 90% des personnes qui sont diagnostiquées burn-out dans cette étude, 80 à 90% sont en fait déjà en dépression. À mon sens, ça plaide plutôt pour des raisons d'efficacité thérapeutique et de confort de vie, j'ai envie de dire, du sujet, pour aller chercher très vite la dépression et les troubles anxio-dépressifs. Parce que ça, c'est très bien balisé thérapeutiquement, médicalement.
Mais il y a quand même un gros problème de diagnostic dans ces cas-là, évidemment.
Et vous voyez, ça n'est pas du tout ce que nous voyons, nous, dans nos consultations spécialisées, puisqu'encore une fois, bien pris en charge,
alors
nos patients rebondissent rapidement.
Marie Peset, comment calmer la souffrance des gens? C'est le but pour une clinicienne, bien sûr.
Bien sûr.
Face au burn-out.
C'est de rappeler si c'est une pathologie sociale, à l'interface, de l'organisation psychique personnelle et d'une organisation du travail, que ça s'inscrit en tout cas dans la loi. Il est dit que le chef d'entreprise doit préserver la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats, donc il est responsable de ce qui se passe dans son entreprise. Il a pour ça des acteurs de repérage, de prise en charge bien précis, qui sont prévus, même s'ils sont un peu chamboulés en ce moment. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs qui se penseraient en burn-out, et à la limite, on va parler de surmenage, c'est le bon vieux terme français mis en place, entre autres, par Claude Weil en 1956, d'aller voir le médecin du travail. C'est l'acteur de santé principal dans l'entreprise. Je sais qu'il a mauvaise presse, mais il est quand même soumis au secret médical. S'il le transgresse, il perd son travail et sa possibilité d'exercer. Donc remettons les choses à leur place. C'est lui qu'il faut aller voir parce que c'est lui qui peut beaucoup dans l'entreprise. Il faut aller consulter en milieu spécialisé. Il y a 50 services de pathologie professionnelle en France, une consultation dans chaque CHU. Il y a 100 consultations souffrance et travail sur le territoire français qu'on trouve en ligne sur le site souffranceettravail.com. Nos médecins généralistes sont bien formés, ils sont attentifs à ces pathologies montantes. Donc l'essentiel, en tout cas, quelle que soit l'hypothèse diagnostique, c'est d'aller vraiment consulter le plus tôt possible autour de 3 symptômes. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, cette fatigue que le repos ne répare plus. Vous savez, la discussion du lundi matin devant la machine à café, j'ai dormi tout le week-end, je suis aussi crevée. Et surtout chez les femmes, qui ont toujours la double journée. Le deuxième symptôme, c'est la perte du plaisir à travailler. J'ai plus envie de faire ce boulot que j'adorais. Et le troisième symptôme, pour alerter les auditeurs, c'est le recours aux produits pour tenir, produits légaux ou produits illégaux. Si on en est là, il faut aller consulter un clinicien spécialisé, c'est indispensable.
Jean-François Marmion, la question de la prévention des risques psychosociaux, ce que ça dit aussi, bien sûr.
Oui, sachant qu'il y a quand même plusieurs approches pour ça, et plusieurs approches aussi pour la prise en charge. Notamment, il y en a une qui n'a pas très bonne presse, c'est la gestion du stress. Parce qu'en gros, on va expliquer aux salariés que il faut apprendre à endurer plus, à endurer mieux, à avoir les reins plus solides, ne pas prendre ça au tragique, prendre de la distance, etc. Justement, la méditation arrive en entreprise, comme par hasard. Il y a ça. Alors, mais il y a aussi le fait que, peut-être que pour être plus efficace lors d'un symptôme de burn-out, faut aussi apprendre à dire non, et à le dire sans envoyer son poing dans la figure de quelqu'un.
En tout cas, il y a cette question de Nicolas. Comment favoriser les entreprises qui mettent le bien-être des travailleurs au centre de leur organisation, Philippe Zawedja?
Ça dépend quel bien-être.
Ça dépend. Et puis, ce n'est pas le bon terme. C'est santé physique et mentale.
Philippe Zawedja.
Alors, l'idée de cet auditeur, moi, m'évoque la possibilité de labelliser, par exemple. Si on veut favoriser, donc partir dans une démarche plus incitative que coercitive, qui stigmatiserait les mauvais employeurs, essayons de promouvoir les bonnes pratiques, les bons employeurs. Alors, l'idée du label peut être avancée.
D'accord, bon, une idée, Marie Pesé, pour vous.
Que les entreprises reviennent du côté du travail réel, plutôt que du côté du travail prescrit, de la fiche de poste, de la procédure, du reporting. Qu'on se souvienne que le salarié français, pour arriver à faire son travail, il est obligé de rajouter beaucoup de choses qui ne sont pas données par l'organisation du travail pour y arriver.
Je voudrais dire que dans un certain nombre de métiers, ces procédures, elles sont exigées par l'État lui-même.
Oui.
Dans les métiers sanitaires et médico-sociaux, la procéduralisation est terrible, terrible.
Mais justement, depuis le temps qu'on parle quand même de ces problèmes, hein, de souffrance au travail, Marie Pesé, vous voyez quand même des progrès significatifs qui sont réalisés ou pas?
Écoutez, pour avoir démarré la première consultation et beaucoup ouvert ma consultation en m'asseyant sur mon devoir professionnel, aux documentaristes et aux journalistes, justement pour que ça se sache. Je veux dire que le constat est très amer, parce que si le diagnostic est maintenant partagé par tout le monde, rien n'arrête le rouleau compresseur de ces organisations du travail, rien n'arrête le lean management à la française. On continue à aller vers l'intensification du travail, en oubliant que ce qui travaille au travail, c'est le corps du salarié.
Oui. Et vous dites, Philippe Zawedja, aussi, hein, que paradoxalement, le fait de surmédiatiser ce problème du burn-out contribue aussi à l'amplifier. Hein.
Et ce sera notre faute aujourd'hui encore. Plus on parle du burn-out, plus on va mettre à disposition des gens qui peut-être ne s'étiquetaient pas comme cela, cette catégorie intellectuelle-là, et plus eux vont se sentir concernés et peut-être se glisser dans cette étiquette-là. Du coup, on va chercher davantage, on va trouver davantage de cas de burn-out, puisqu'on les cherche davantage maintenant, et que ce qu'on diagnostiquait sous une autre étiquette il y a 20 ans, on le diagnostique maintenant sous l'étiquette burn-out. Forcément, les statistiques s'en ressentent.
Jean-François Marmion.
Oui, ayons une pensée aussi pour les premières personnes auxquelles s'adressait le concept de burn-out, par exemple les enseignants ou les médecins, qui paradoxalement aujourd'hui sont très souvent passés sous silence. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre des médecins ne se précipite pas vraiment pour étudier le cas des médecins et particulièrement des psychiatres en burn-out. Et puis l'éducation nationale ne semble pas non plus faire preuve d'une hâte intensive pour étudier le burn-out des enseignants. Ouais. C'est quand même paradoxal. C'est pour eux que le concept a été inventé. Et en France en tout cas, c'est eux qui sont escamotés du débat.
Ouais. À quand une reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle, demande Sarah.
Totalement.
C'est souhaitable? Non.
Je suis totalement opposée à la reconnaissance en maladie professionnelle. D'abord parce que c'est une maladie qui n'existe pas. C'est un syndrome qui n'est pas stabilisé dans la nomenclature psychiatrique internationale. Nous venons d'évoquer tous ensemble le côté protéiforme de cette pathologie. Et donc, qui va la diagnostiquer? Qui va la prendre en charge? Et pour quel effet sur le chef d'entreprise? Il vaudrait mieux aider les petites et moyennes entreprises en France à remettre du souffle et de l'oxygène dans l'organisation du travail en termes de marge de manœuvre, ça empêcherait beaucoup de burn-out.
Allez, on termine là-dessus, malheureusement, puisque c'est déjà la fin de l'émission, en vous renvoyant sur ces ouvrages. Le burn-out de Philippe Zawedja, c'est aux Presses Universitaires de France, dans la collection Que sais-je. Souffrance-et-travail.com, ça c'est le site internet. Il est en lien, évidemment, sur la tête au carré Marie Pesé. Et puis le Cercle Psy, donc ce nouveau numéro, Jean-François Marmion, avec la société en burn-out,
point d'interrogation. Oui.
Et c'est dans les kiosques en ce moment. Merci beaucoup infiniment à tous les trois et aux auditeurs nombreux à nous avoir rejoints avec les témoignages.